Et les vacances qui s'achèvent pour certains et qui commencent pour d'autres, profitez bien de cette saison estivale. Bonjour Nathalie, oui, c'est les vacances de Mathieu Tessier, oui, notre réalisateur.
Mathieu est déjà parti.
Non, pas tout de suite. Alors Nathalie, oui. On va recevoir tout de suite quelqu'un que tu connais bien parce que, faut le dire, vous avez travaillé ensemble tout récemment. Alors oui, c'est le commandant Piché. Robert Piché, bonjour.
Bonjour mesdames.
Bonjour. Alors Robert Piché, je vais, bien sûr, comme Nathalie te connaît, il faut bien que je te tutoie parce que là, ça va faire dur un peu. Là, si moi, je vous vois, puis elle te tutoie. Mais chose certaine, oui, je dis commandant Piché parce que c'est sûr que si je dis vitement comme ça Robert Piché, il y a des gens qui ne penseront pas au commandant Piché. Mais si je dis commandant, là, tout de suite, on sait c'est qui, on sait qui tu es. Et évidemment, on t'a mis, bien sûr, on t'a élevé comme un héros national. On se souviendra de ce grand moment où, enfin, pas pour toi, mais pour les, du moins ceux que t'as sauvé là, de cet accident d'avion qui était annoncé là, parce qu'il n'y avait plus de carburant, évidemment. Et tu as fait un vol plané de près de 20 minutes. Tu as réussi à poser l'avion aux Açores. Alors ça, c'est un événement qui a eu lieu il y a quand même un certain temps.
Mais bien de le mentionner parce que les
ça gens, fait 23 ans,
quand
je pense.
Quand on dit Robert Piché... Des fois, ils ne savent pas c'est qui, mais le commandant, ils savent
c'est
qui.
C'est pour ça que je dis commandant.
Pourtant, le commandant, c'est un titre professionnel qui n'a rien à voir.
C'est ça, je sais que tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça.
Mais tu ne restes pas commandant toute ta vie?
C'est pas un titre professionnel, c'est juste, c'est juste une marque... pour savoir qui gagne le plus gros salaire dans le cockpit.
Alors oui, parce qu'à l'âge de 65 ans, il a fallu que tu prennes ta retraite. Évidemment, ça, c'est pour ceux qui font qui travaillent sur des pilotes de ligne, là, avec des gros porteurs, voilà. Ouais. Alors, vous n'avez pas le choix. Évidemment, est-ce que tu aurais continué à voler, blague à part?
Dans l'état que j'étais rendu au top de ma job. Moi, le prochain move, ça aurait été à navette spatiale. Ça fait que j'étais rendu pas mal au top.
Donc, tu avais relevé tous les défis.
Des bonnes conditions de travail, des bons salaires. Ouais. J'aurais pu continuer, j'avais la santé, la forme physique. Mais je suis content qu'il m'aille arrêter à 65. Je suis obligé de 65. Depuis que j'ai pris ma retraite, je réalise que ça va vite après.
Oui. Mais tu as commencé bien jeune, il faut le dire.
J'ai commencé comme la majorité des gens, autour de 17-18 ans, là. Ouais. C'est rare qu'un gars va commencer à 30 ans pour devenir commandant de gros porteur. Parce que faut que tu fasses tes heures de vol pour que tu prennes ton expérience dans des petites compagnies. Puis c'est des compagnies qui ne payent pas. Fait que tu manges tes bas pendant plusieurs années avant d'arriver en ligne nationale, si on peut dire.
Ouais. Alors ça veut dire que tu as quand même complété presque un tour du monde ou si c'est déjà fait?
Oui, j'ai fait le tour du monde. Oui, mon ambition quand j'étais un ticu, moi, c'était de faire le tour du monde en tant que commandant de bord d'un gros porteur.
Oui.
Je l'ai fait en 2010. La portion qui me manquait, c'était entre Jakarta puis Hawaï. Ça a donné que je l'ai fait.
Puis tu l'as fait.
Fait que j'ai fait la boucle, une fois le tour du monde en tant que commandant de bord.
Mais quand tu es rendu dans la soixantaine, ces longs vols d'une vingtaine d'heures, est-ce que ça t'épuisait ou tu voulais en faire moins, j'imagine?
Non, c'est pas que ça t'épuise, c'est qu'il y a une discipline de vie qui vient avec. Puis que peu importe ce que tu fais, tu t'en sortiras jamais. La fatigue est là. Moi, j'arrivais chez nous, des fois, j'avais 40 heures de décalage horaire dans le corps. J'étais 3 jours en congé, puis je repartais pour un autre 40 heures. Fait que sur 5 mois l'été, on perdait un mois de sommeil. Il faut que tu sois en forme physique pour arriver là, mais le problème, c'est que vu que tu n'as pas d'été, parce que c'est là qu'on travaille le plus, c'est là qu'il y a le plus de décalage horaire parce qu'on fait pratiquement pas de sud, on fait quasiment juste l'Europe. Fait que tu veux profiter de l'été comme tout le monde, fait que tu es sur une belle terrasse à quelque part, tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas attention à ce que tu bois, puis des fois, tu es 3-4 jours parti, tu n'as pas le temps de t'entraîner. Mm-hmm. Fait que tout ça fait que tu arrives avec une fatigue psychologique puis physique à l'automne.
T'sais. OK. Mais quand tu dis qu'il faut être en forme, toi, as-tu toujours suivi une forme d'entraînement?
J'ai toujours été un autodidacte là-dedans. Je me suis toujours entraîné depuis que je suis jeune, que je me souviens. J'ai toujours fait du sport, puis je me suis toujours entraîné tout seul. J'étais un gars qui a une grosse détermination personnelle.
Okay.
Une grosse discipline personnelle. Ça ne paraît pas quand tu regardes ma vie. mais bien souvent, du monde que je montrais piloter, puis je leur donnais mes trucs, puis tu penses à ça, toi? Il était comme surpris de voir tout ce que je pensais en pilotant un avion ou en faisant un sport quelconque, tu sais. C'est une détermination spéciale, puis je n'ai pas vraiment de mérite. Ma mère, moi, elle est très, très déterminée. C'est une femme qui vient d'un petit village qui s'appelle Newport, en Gaspésie. Mm-hmm. Puis en 1933, à l'âge de 17 ans, elle a dit à son père, « Je m'en vais travailler à Montréal. »
Elle beaucoup de détermination.
Tout seul, de fille, à 17 ans.
À l'époque, c'est
En 1933, tout de suite après la crise, avec pas d'argent dans ses poches, Mon grand-père, il a acheté un billet de train, des gros chars qui appelaient dans le temps. Puis il l'envoyait à Montréal, puis s'est débrouillé. Ben, jamais revenu chez elle.
Ah, moi, je peux le dire. Moi, je peux le dire. T'as son front de bœuf.
Ben, c'est ça.
C'est ça, exactement. C'est ça.
Que, il dit bon, on dit tout le temps que les garçons ressemblent au père. Moi, je ressemble plus à ma mère.
Front de
bœuf
de ta mère.
Aïe, aïe, aïe. Ben, tout à fait. Alors, c'est sûr que... Bon, tu sais, Nathalie, je ne sais pas si tu le sais, mais notre cher commandant Piché, lui, a commencé à être pilote. Peut-être parce que c'était, à la fois, il y avait certainement un intérêt personnel, mais aussi, ça faisait bien auprès des filles. Hein. C'était une belle façon de,
ben, ça,
de plaire
c'est...
aux filles.
Ben, ça, c'est venu après.
Ah, ça, c'est venu après. Ah, ouais. OK.
Parce que moi, quand j'étais jeune, j'habitais à côté de l'aéroport de Mont-Joli. Puis ma mère me disait tout le temps, plus tard, quand je suis devenu pilote, elle, c'est vrai, quand tu étais jeune, puis tu étais en train de t'amuser avec ta gang de copains dehors, puis un avion arrivait, puis décollait, atterrissait, puis décollait, tu étais le seul qui arrêtait, puis regardait l'avion. Ça, je me souviens de ça. Mm-hmm. Puis je me demandais, comment ils font pour piloter un avion? Il y a deux types en avant là, qui pilotent. Comment ils font? Puis ça, c'est là que l'intérêt est venu. Mais après ça, quand j'ai pogné la quinzaine, c'est sûr que... Là, j'ai commencé à courir les filles, puis j'ai vu que le métier allait bien.
Mais,
le métier allait bien avec ça.
C'est... Le métier et l'habit.
L'habit
aussi,
l'uniforme.
L'uniforme. Parce que
l'uniforme est encore très prisé chez une certaine genre féminine.
Ben oui, c'est encore ça.
Moi, je suis rendu à ma cinquième femme. Je ne sais pas si j'ai poussé trop fort sur les quatre galons, mais disons que ça a fonctionné.
Non, c'est très drôle. Donc, tu avais ce côté aventurier, petit côté aussi en même temps rebelle, à savoir que tu savais ce que tu voulais dans la vie et même tes études aussi. Ça a été quand même quelque chose. Tes profs, évidemment, tu es un surdoué à quelque part.
Mais tu le sais pas, ça, quand tu le lis.
Ouais.
Comme là, vous dites, j'étais un aventurier, j'étais un téméraire. Tu le sais pas. Tu sais, j'avais 12, 13 ans, tu n'es pas assis au bout de ton lit. Ben moi, je suis un aventurier, m'en faire ça. Tu sais, c'est les choses de la vie qui m'ont amené à ça.
C'est
puis j'ai trouvé que quand j'avais un intérêt à cause de l'avion, parce que j'habitais près de l'aéroport, j'ai dit, tiens, bon, m'a essayé ça. Tu sais, puis tout est venu par le fait même. Puis. J'ai fait la grosse école qui s'appelle le Cégep de Chicoutimi.
Exact.
Puis j'ai gradué de là, puis envers et contre tous, parce que j'ai manqué une fermette dehors deux fois, mais pas à cause de mon inaptitude au vol.
T'aimais peut-être plus faire la fête
c'est
que
c'est ça, j'aimais plus les femmes que l'avion, tu sais, c'est ça.
Oui, mais finalement, comme tu étais surdoué, ben t'arrivais
parce à... Parce que l'avion, non, c'est parce que les...
Tu y arrivais
quand
même.
Mais je savais pas, je pensais que tout le monde était comme moi. J'étais un peu naïf de ce côté-là.
Oui, oui.
Puis je pensais que tout le monde qui s'est inscrit dans cette option-là de pilotage, ben ils sont comme moi, ils ont tous envie de faire des pilotes. Puis moi, bien, c'était pas une option de dire, bien, je veux-tu être correct ou pas correct? De là, ma détermination, j'entreprenais quelque chose, puis je le finissais, puis ça allait comme ça. Mais je me suis jamais posé la question, est-ce que j'ai le talent ou pas?
C'est ça.
Tu sais, je vois les jeunes aujourd'hui, mes enfants, puis ça, ils se posent des questions, serais-tu bon dans tel domaine? Moi, ça... Peut-être parce que je suis un produit des années 70. Hein. Les années 70, tout était possible pour la génération de 17-25 ans. Là,
aussi,
c'est ça.
Oui. Ben ouais. Alors, tu l'as dit, évidemment. Ben ouais. Parce qu'il faut le dire, là, il y a quand même une entrevue que tu as accordée à Jean-Marie Lapointe, ici même, à Canal M, qui est fort intéressante. Quand même, vous avez passé au moins une heure ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là, dans cette émission-là. Évidemment, tout ton parcours de vie. Alors, j'invite les gens, bien sûr, à retrouver cette émission-là qui a été diffusée sur nos ondes. C'est facile à trouver. Et puis, ben, ils en apprendront certainement davantage. On va, évidemment, nous aussi en parler. Mais donc, cette détermination, ce côté rebelle, finalement, ce côté... ça t'amène aussi à prendre des risques, hein, inévitablement. Et ben, c'est ça qui va arriver un jour. On a révélé suite... En fait, les révélations concernant le fait que tu as fait de la prison quand tu étais jeune, justement, est-ce que c'est venu après, je pense, hein, quand il y a eu... Des journalistes se sont penchés là-dessus après que tu aies posé ton avion là, aux Açores.
Ouais,
hein?
Ouais,
c'est là que tout est sorti.
Ben, disons que... C'est raccourcir un peu, puis c'est prendre des chemins plus courts, des raccourcis.
Ouais.
Mais ça, encore une fois, ça
c'est
se passe.
Parce qu'on n'a pas trois heures.
Ouais, c'est ça, bon, je sais bien, mais c'est pour ça, moi, je pourrais vous en parler pendant trois heures. C'est ça l'affaire. C'est que ça se passe pas comme ça. C'est le contexte. Dans les années 70, quand il y a eu le premier gros crash pétrolier, les compagnies aériennes ont commencé à mettre tout le monde à pied. Puis je me suis fait mettre à pied par la compagnie pour laquelle je travaillais. Pourtant, j'avais un très bon numéro de seniorité.
Ouais.
Je pensais jamais venir à me toucher. Finalement, je me suis retrouvé sans job. Puis tu ne prévoyais pas le jour qu'on allait réembaucher ce monde-là parce que ça allait tellement mal au point de vue aviation. Fait que j'ai eu ce stuff-là qui m'était donné. Puis je disais, hey, pourquoi pas? Mais encore là...
D'aller finalement transporter de la drogue.
Chercher de la drogue, oui.
C'est ça. Bon.
Mais encore là, j'avais lu ça dans le Reader Digest à un moment donné. Puis je m'étais dit, ben maudit, j'aimerais ça faire ça une fois dans ma vie.
Oui, par curiosité.
Faut faire attention à ce qu'on lance dans l'univers.
C'est ça, par curiosité, finalement.
Moi, c'est pas le trip, tu sais.
Oui, je
mais,
sais.
Mais je me disais pas aventurier. Moi, j'étais un tripeux. J'étais un produit des années 70. Quand le vent de la liberté est arrivé de la Californie, j'étais en plein dedans, tu vois.
Ouais.
Fait que tout était possible. Tu sais, bébé boomer, tout nous était possible. Hein?
Ouais.
Ça coûtait pas cher vivre. Il y avait des jobs pour tout le monde, puis... C'est pour ça que ce côté-là, je l'ai posé. C'est sûr que ça a l'air du gars aventurier, mais ça n'avait rien à voir. Moi, c'est personnel. C'est ce que je voulais faire personnellement.
Tu n'as jamais craint quoi que ce soit quand tu t'es embarqué là-dedans. Tu n'as pas dit...
Mais oui, mais c'est là que tu vas chercher ton adrénaline.
Ouais.
Le niveau de crainte t'amène une adrénaline pour surpasser la crainte. Mais tu as peur, comme le vol 236, le monde pense que je n'ai pas eu peur. J'ai eu terriblement peur. Puis j'étais le premier à avoir peur de perdre sa vie. Puis quand le petit témoin s'est allumé pour nous dire qu'on avait un problème potentiel, tout de suite, j'ai été envahi par la peur que j'allais mourir là, tu vois.
Ah oui. Hein?
Ben oui, mais le problème, c'est avoir peur, c'est un sentiment humain tout à fait normal à ressentir dans une certaine circonstance, situation. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu passes par-dessus pour assurer ta survie. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, le héros n'est pas plus brave que la moyenne des gens, il est 5 minutes de plus.
Oui, ça, c'est intéressant.
Tu sais,
oui,
c'est ça, hein, dans le fond. C'est tu regardes la chose, puis vu que j'étais un fataliste, puis j'étais un gars qui regarde la situation, puis c'est bon, ben on va y aller par là, on va... De toute façon, je suis seul dans l'avion qui peut faire quelque chose.
Ouais, ouais,
si je me croise les bras, puis je panique, on n'ira pas nulle part.
Alors, on fait ce qu'on peut. Tu étais prêt à aller jusqu'au bout de cette aventure-là, en fait, cette mésaventure-là, et puis advienne que pourra, finalement. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu t'es dit au moment où tu étais en prison. Où
ben c'est, non, c'est la même chose que quand je suis rentré en prison.
Ben oui, quand tu es entré en prison.
Je me suis regardé dans mes bras, puis t'es dans la marde, pas à peu près.
Ça va mal à la choc,
là,
comme on dit.
Allume tes lumières, là, puis essaye de faire ce que tu as fait pour sortir d'ici, puis sacré. C'est ce que j'ai fait.
Oui.
Tu sais, t'arrives en prison, t'es un milieu complètement inconnu, puis super hostile, tu vois.
Ah ouais. Fait que, d'ailleurs, ta vie a été menacée aussi
en
prison.
T'es menacée, puis t'as l'hostilité physique puis sexuelle qui est présente 24 heures par jour. Mais t'as un paquet de non-dits, de non-écrits qu'il faut que t'apprennes par cœur, mais personne ne me montrait à déchiffrer des non-dits et des non-écrits. Mais l'urgence de la situation fait que... Ben, tu sais, Dalai Lama, je dis...
T'apprends vite.
Oui, c'est ça. Le Dalai Lama, je dis, c'est dans l'inconnu que l'homme se réalise. Ben moi, j'ai fait face à l'inconnu dans ma vie, puis c'est là que je me réalisais le plus, parce que c'est inconnu, puis je cherchais à savoir comment faire pour me sortir de cet inconnu-là.
Et tu t'es pas facilité la vie, c'est-à-dire que tu as fait la prison aux États-Unis.
Ben encore là, c'était pas dans mon plan de match, tu vois. C'est sûr, quand j'ai fait ce voyage-là, j'y ai pensé, ça m'a effleuré l'esprit qu'on peut se faire arrêter, mais comment ils vont faire pour trouver un petit avion qui atterrit dans le milieu de la Géorgie? Tu sais, c'est comme trouver un épingle dans une botte de foin. Il va falloir que c'est mauditement chanceux. Puis justement, ils ont été chanceux parce que le gars, il était même pas là pour moi, la police. Tu vois? Il était là pour une autre raison, puis il me voit arrêter. J'aurais atterri peut-être une demi-heure plus tard, puis il n'aurait pas été là, puis le vol s'aurait fait normalement, tu vois?
Oui, en tout cas. Alors, peut-être que le parcours de vie aurait été différent à ce moment-là. Parce que
non, mais il fallait que ça arrive
oui,
comme ça.
Oui, c'est ça, parce que ça a été
pour
déterminant.
Pour permettre d'aider les gens aujourd'hui.
Bien, c'est ça. Puis ça a été déterminant aussi, peut-être, pour ce jour, ce fameux
pas
jour.
Pas peut-être, c'était déterminant.
Déterminant pour la prise de décision au moment où tu as dû poser ton avion. Parce que, évidemment, tu avais déjà été confronté à une situation où tu as eu à prendre une décision et t'as été, évidemment, ta vie était menacée aussi. Alors, il a fallu que tu agisses rapidement et avec, comme disait Nathalie, avec un front de bœuf, parce que tu as confronté quand même des criminels qui étaient pour te passer dans les jours qui suivent.
Ils n'ont rien à perdre. Le gars qui pogne 25 ans aux perpétuités, là. Lui, tu es un gars de plus, tu es un gars de moins. Lui, ça ne change rien dans sa vie. Là. Il va rester en prison pareil.
Et comme tu dis, ton instinct, en fait, que tu as réussi à te transformer malgré toi. Tu comparais ton... Tu as dit, j'ai dû avoir un regard tellement fou qu'ils ont eu peur. Alors, tu t'es comparé un peu à
Shining.
À Shining.
Ah ouais. Quand il rentre dans la salle
Jack
de bain.
Nicholson, c'est ça. Ouais. Donc...
Ben, Jack Nicholson a déjà dit, d'ailleurs, que pour cette scène-là, il a touché la folie.
Ah oui.
Puis le problème, c'est de revenir de cette folie-là. Oui. Puis moi, je l'ai touché en prison. Je le sais que des fois, il m'arrive des situations moins graves, là. Mais je le sais que si c'était pour empirer, je pourrais rentrer dans la folie. Puis ça, il faut faire attention, parce que La ligne n'est pas épaisse.
La ligne est mince. Ouais. On s'arrête, Robert, parce qu'on va... Je t'offre de rencontrer... Enfin, il est à l'autre bout du fil, mais quelqu'un aussi qui sauve des vies à sa façon, c'est-à-dire qu'il veut sauver le monde, c'est-à-dire qu'il apporte du bonheur, du réconfort à des gens qui sont très loin de nous, souvent dans les camps de réfugiés, les orphelinats et tout. Alors, on va s'entretenir avec Guillaume Vermette, qui est un clown humanitaire. Alors, vous avez des points en commun, tu pourras intervenir si tu veux, là, pas de problème. Alors, on va faire une converse entre nous. Alors, on s'arrête le temps d'une pause ou quoi? Oui, mini. Puis on retrouve Guillaume. Écoute, on était en train de danser, nous, là. Ah, alors ça rappelle des beaux souvenirs,
Robert. Je connais bien Mathieu, puis j'avais déjà parlé de ce groupe, les Mash Macan, des années 70. Ils ont été un groupe très, très populaire. Puis ils sont perdus un peu dans la consommation. Ils ont fait 2-3 gros titres, dont celui-là, ce titre-là qu'ils viennent de mettre. Là,
oui, oui.
As the Year Go By.
Et by the Year Goes By. C'était mon premier show rock quand j'avais 15 ans à Rimouski.
C'est des souvenirs, ça. La fille qui t'accompagnait devait être cute.
Mais justement, Guillaume...
T'es moins cute à la fin, mais...
mais Guillaume, tantôt, justement, il disait, on va aller prendre une bière. Toi, tu bois plus, Robert, mais t'as bu longtemps.
Ouais, j'ai bu combien de temps?
30 ans.
Ouais.
Donc, OK, de quel âge à quel âge? T'as commencé à boire
de 17-18 ans, là. Ouais. J'étais pas trop sérieux. Okay. Jusqu'à quand j'ai fait ma thérapie à 50 ans.
Okay. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que tu n'as jamais pensé que tu avais un problème.
Non, pendant 30 ans de temps de consommation, j'ai jamais pensé que j'étais alcoolique. Pourtant, j'avais des alcooliques autour de moi. J'avais du monde qui suivait des meetings, des associations anonymes, mais jamais que j'ai pensé que j'en étais un. C'est pour te dire.
Comment se fait-il que...
Mais c'est pas la consommation. Ça? La consommation, c'est 15% du problème.
Okay.
C'est le comportement qui est 85% du problème. Tu peux être un alcoolique sans consommer. C'est un comportement d'alcoolique, tu vois?
Oui, je comprends. En fait, c'est un problème de dépendance, quel qu'il soit.
Mais pas nécessairement, c'est que...
C'est toi, t'aimais le party.
La vie, elle n'est pas assez vite.
Oui, t'aimais le party.
Mais c'est parce que moi, très jeune, j'ai compris que tu viens au monde, tu vis puis tu meurs. Okay. Très jeune, j'ai eu cette pensée philosophique-là de dire que ça me donne de vivre. Hein? Donc, c'est bien de faire le party entre les deux. Mais encore là, une fois, je me suis pas assis au bout de mon lit et me suis dit, m'en faire le party. C'est venu par le fait même. Puis quand tu regardes ma personnalité rendue à 71 ans que je suis, tu t'aperçois que tout est rattaché. Tu sais, il n'y a pas d'isolement dans ma vie. Moi, c'est tout une suite. Mais, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une suite. Mais c'est le développement de ma personnalité puis le genre de gars que je suis aujourd'hui a fait que fallait que je sois un alcoolique à l'âge de 17-18 ans. À le devenir, que je savais pas que j'allais devenir. Fallait que j'étais un gars qui aime la fête pour atterrir cet avion-là. Tu vois, j'ai tout fait la vie à ma manière, comme ma mère a fait à sa manière.
C'est ça.
Puis j'ai jamais eu besoin des autres. On a toujours besoin des autres dans la vie, mais j'ai toujours été un solitaire. Pas un gars exclu du clan, mais un solitaire. Tu vois?
Tu sais, tantôt, tu me disais, t'es un ex-commandant. Et pourtant, quand je t'entends, des fois, je suis allé déjà dans un partage et ça, et tu dis que tu es un alcoolique.
Ouais.
Tu vas toujours rester alcoolique?
Oui, bien, mais la dépendance est venue par après.
Ouais.
Mon comportement a fait que j'ai perdu le contrôle sur la substance. C'est pour ça que la première étape des associations anonymes, c'est d'avouer que tu as un problème avec ta substance. Mais moi, je ne l'avouais pas que j'avais un problème avec ma substance, parce que je ne pensais pas que la substance était un problème. Mais quand tu commences à patauger dans ce milieu-là, tu t'aperçois que ton comportement t'a amené à perdre le contrôle sur la substance.
Et toi, tu dis clairement, j'ai une maladie, je suis alcoolique.
Ah oui, c'est une maladie mentale. Encore à ce jour, même si ça fait
combien d'années que tu ne bois plus? Là?
Ça fait 23 ans. Ouais.
Ça fait 23 ans. Ouais. Et tu continues de dire, je suis alcoolique.
J'ai encore mes sautes d'humeur, mes sautes de comportement.
Comment ton fou, comment tu l'appelais?
Le fou dans ma tête.
Le fou dans ta tête,
Des fois, il part le fou, j'ai de la misère à le contrôler. contrôler. Tu sais, c'est une manière de percevoir la vie. Tu sais, les gens, avant que tu comprennes que c'est ça ton problème, c'est dur à dire, ben j'ai ce problème-là, tu as l'avoué toi-même, parce que c'est un cheminement que faut que quelqu'un d'autre te le dise. Le thérapeute qui m'a aidé en thérapie, lui, c'est un ancien héroïnomane. C'est sûr que lui connaît le cheminement d'un gars qui perd le contrôle de son comportement. C'est le comportement qui t'amène à perdre le contrôle de ta substance.
Oui, mais ce besoin que tu avais d'intensité, de vivre là, pleinement, là, c'est sûr que souvent, les gens qui ont des dépendances, soit à l'alcool, aux drogues, ben, il y a aussi ce besoin de vivre, de cette adrénaline. Ben,
tout le monde est la base, la base est un peu la même, juste une dépendance affective.
Oui.
Juste que beaucoup de personnes âgées, quand ils commencent à voir la voir que leur vie s'achève, ils vont tomber sur les Prozac, tu vois, puis ils prennent une dépendance au Prozac, tu vois, c'est parce que ça leur donne un goût de vivre qu'ils étaient en train de perdre en vieillissant. Tu vois, c'est ce goût de vivre-là que... C'est pour ça que l'héroïnomane, la héroïne est très dangereuse, parce que juste un fixe t'amène au nirvana, puis tu veux plus revenir de là. C'est contrairement au pot ou à la cocaïne qui te donne le même feeling, mais à une intensité beaucoup moindre qui fait que tu perds pas. Tu peux perdre le contrôle, mais dans le fond, que tu ne deviens pas un clochard pour autant. Tu sais.
Ouais. La question que je me pose, c'est que bon, tu as arrêté un jour, il y a 23 ans, tu as arrêté pour avoir déjà parlé à quelqu'un dans le domaine qui était chanteur, qui a déjà dit « j'aurai plus jamais le même feeling, je ne vivrai plus jamais ça, monter sur une scène avec la coke et tout ça ». Alors toi, dans ta vie, est-ce que tu t'es déjà dit « Chris, ma vie va être plate sans ça ». T'es-tu déjà posé la question?
La vie est plate. Pour un alcoolique toxicomane qui est dans l'établissement, la vie tombe plate du jour au lendemain.
Puis tu sais que tu vas affronter ça jusqu'à la fin de tes jours.
C'est parce que toute ton émotion, tu l'as exagérée avec la consommation.
Ouais.
Je vais te donner un exemple. Quand je vais dans le sud avec ma femme est professeure de yoga, elle est zen au bout. Ça ne boit pas, ça ne fume pas, ça ne sac pas. Puis elle a regardé le coucher de soleil, la capote.
Mm-hmm.
Elle m'a dit « Ah, mon chéri, il est beau le coucher de soleil. Il est bien beau, mais donne-moi un joint, puis une bière, puis une bouteille de vin. »
Il va être encore plus beau.
Mais c'est parce que moi, je le trouvais beau dans ces temps-là. C'est comme aujourd'hui, je tomberais célibataire, mettons, aujourd'hui, là. Je sais pas comment je ferais pour me retrouver un autre conjoint, tu vois, parce que moi, j'ai croisé 30 ans de temps sur la brosse, tu sais.
Ouais.
Ça faisait partie, comme j'ai toujours dit, à 17 ans, c'était un joint de bib et une femme. C'était un package deal, c'est pas une affaire séparée, tu sais.
C'est tout ensemble.
Tu sais, j'ai un produit des années 70, je continue de le dire, tu sais. Puis celle-là, avant, c'est le même qu'on fonctionnait dans le temps, tu sais.
Fait qu'à tous les jours, tu remets ça en question. C'est-à-dire, ma vie va être ça dorénavant.
Oui. Puis j'essaie de me trouver des sites d'intérêt que je ne connaissais pas avant. Comme là, je me suis mis au golf. Je me donne une idée d'essayer d'être pas pire au golf. Je joue au pickleball. J'essaie d'être pas pire au pickleball.
Je fais du sport.
J'ai toujours fait du sport. Mais si je fais pas ça... Je ne peux pas rester assis chez nous à rien faire pour regarder la TV.
Non, c'est sûr.
Tu sais, là, le genre de gars que je suis m'a déprimé deux fois plus vite que si... ça va peut-être me faire rechuter. Tu comprends?
Ouais. Là, on va parler, bien sûr, de ce que tu fais concrètement pour les gens, pour les autres. Alors, tu as parti de ta fondation, Fondation Robert Piché. Tu fais des rencontres régulièrement. Arrive-t-il des situations où les gens, ils ne veulent pas être aidés?
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est fréquent.
C'est pas qu'ils veulent pas être aidés. Leur entourage leur dit qu'ils ont besoin d'aide, mais lui, il veut pas être aidé parce qu'il sait pas qu'il y a un problème comme moi, je savais pas que j'avais un problème. Parce que lui, sa consommation, il vit avec ça, puis il a de besoin, puis il pense pas. Tu sais, c'est comme le type qui fume une cigarette, puis il prend un café. Il dit, moi, quand je me lève le matin, ça me prend un café, puis quand je prends un café, ça me prend une cigarette. Mais s'il décide d'arrêter de fumer, il faudrait qu'il arrête de prendre un café. Parce que s'il prend un café, il va toujours avoir dans l'idée, tu sais, s'il a pris du café et de la cigarette pendant 30 ans. C'est des associations. C'est la même affaire pour un type qui ne veut pas être aidé. Il ne sait même pas qu'il a besoin d'aide. J'ai fait une conférence dans une maison thérapie la semaine dernière, puis il était une quinzaine devant moi. Puis j'en avais spoté trois, là, qu'eux autres, il n'y a pas d'affaire là. Puis là, je leur disais, pour eux autres, j'ai parlé. J'ai dit, t'es ici, c'est parce que t'es dans la marde. T'es pas venu ici par vertu, là. T'as pas décidé, toi. Moi, je vais faire une petite thérapie au centre thérapeutique ou alcoolique toxicomane. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis ici. Puis je vois bien que c'est pas toi qui t'as amené ici. Puis là, t'es réfractaire à ça parce que tu sais que si t'embarques dans ce milieu-là, tu pourras plus consommer. Puis ton fou dans ta tête ne veut pas arrêter de consommer. Mais il va falloir que tu comprennes que si t'es dans la marde, tu peux sortir, faire ta thérapie, tout le monde va être content. Puis tu retourneras dans ta marde après. Puis tu vas t'apercevoir que l'amende va être encore plus grosse parce que là, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pas y retourner. Mm-hmm. Fait que là, tu vas déprimer deux fois plus, tu vas consommer deux fois plus pour t'enlever la honte tout en sachant que ça te donne de revenir dans l'actif, comme on dit, à recommencer à consommer.
Oui. Donc, évidemment, là aussi, vous avez travaillé ensemble sur les fameux balados. Ouais. Je pense que les balados qui vont être diffusés...
À partir du 7 septembre.
C'est ça, au mois de septembre. Ouais. Alors, c'est tout ça. Ce sera les... En fait, vous allez aborder tous ces sujets-là.
Bien, en fait, le balado, c'est... Bien, Robert va pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais c'est 12 épisodes où Robert et son co-animateur, notre ami Eric, qui écoute probablement en ce moment, alors, il parle de la méthode des 12 étapes.
Ouais, la seule manière de te sortir de ton problème d'addiction, mm-hmm. de consommation, c'est de suivre les 12 étapes qui a été mises par la méthode des alcooliques anonymes, qui a été faite par les deux membres fondateurs, qui a été créée en 1935. Ça a sauvé des millions de personnes. Puis moi, je le sais que c'est la seule méthode que tu peux t'en sortir. Tout le monde qui va parler contre cette méthode-là, c'est parce qu'ils n'ont pas le désir sincère d'arrêter de consommer.
Ouais.
Parce que tu ouvres toujours une petite porte dans ta tête. Ouais. Je vais peut-être bien être capable de reconsommer d'une manière contrôlable dans le futur, mais c'est impossible.
Et puis, dis donc, Robert, parce que justement, dans ces étapes-là, il y a toujours l'aspect un petit peu plus spirituel, une dimension spirituelle, ouais. religieuse, un ouais. peu à la limite. Là, je veux dire, on parle de Dieu. Et c'est sûr qu'en 2024, on est encore surpris. On comprend que les fondateurs...
Mais c'est là que ça choque un petit peu.
Oui, les fondateurs ouais. avaient ce... Mais oui, c'était une autre époque.
Dans les années 30, Dieu était bien vu.
Voilà, mais aujourd'hui...
Il était associé à la religion catholique. Ouais. Maintenant, c'est plus la religion catholique. Mm. C'est plutôt la spiritualité. Puis ils ont changé les termes. Fasse confiance au Dieu de la manière que tu le conçois. Moi, c'est mon mentor. Mon mentor est décédé en 2017. J'ai cheminé 15 ans avec lui. C'est lui qui m'a montré le mode de vie et tout. C'est lui, ma puissance supérieure, mon Dieu, si on peut dire, c'est lui. Quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, c'est à lui que je parle. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde ou que les gens ne sont peut-être pas intéressés à t'écouter ce que tu es en train de dire. Fait que le temps de trouver la bonne personne à qui en parler et que tu vas avoir une interaction, des fois, ton idée est passée. Fait que moi, j'en parle à ma puissance supérieure directement. Puis quand tu commences à faire les étapes, il y a une chronologie des étapes. T'avoues que tu as un problème de substance, que tu as perdu le contrôle de ta vie, que ça te prendrait quelque chose de plus grand que toi pour t'en donner raison. Puis là, tu arrives à la troisième qui dit tu confies ta volonté et ta vie aux soins de Dieu tel que tu le conçois. C'est là que ça bloque. Parce que l'alcoolique toxicomane qui ne veut pas arrêter, tu lui parles de Dieu, elle va dire c'est une secte, ça ne veut rien. Tu sais, mais c'est parce qu'il ne veut pas comprendre, mais lui expliquer. C'est pas facile de l'expliquer, c'est ça qui est le problème.
Pour avoir travaillé ces 12 épisodes-là avec Robert, moi-même, au début, je me disais « Dieu, Dieu, Dieu » dans le décor tout le temps. Mais alors, c'est Robert qui a pris la peine de m'expliquer « Mais Dieu ne veut pas, ça veut pas dire Dieu, c'est ça. C'est ton être supérieur. Ton être supérieur, c'est qui? » Bien, un ami qui m'a déjà dit « Si tu considères que cette personne-là peut avoir un impact sur ta vie ou tout ça, moi, mon être supérieur, c'est mon chum qui est décédé. »
C'est ça.
Fait que c'est faut comme enlever le mot « Dieu » dans notre esprit.
Ouais.
Puis parce
surtout pour un alcoolique toxicomane, ça lui donne l'excuse parfaite à son fou de dire « Ah, tu vois, je consomme. »
Ouais, c'est ça.
Mais il y a une chronologie, tu vois, c'est dans les étapes, puis il faut que tu les suives, les étapes, puis il faut que tu les fais. Puis le problème dans les associations anonymes, c'est pas tout le monde qui fait les 12 étapes. Il y en a plusieurs qui arrêtent de consommer, puis ils font du meeting, mais ils n'embarquent pas dans le programme. Tu vois? Mm-hmm. Quand tu vas aux États-Unis faire un meeting, là, la première chose qu'ils te demandent en rentrant, « Why are you on your program? »
Okay.
Un gars que tu ne connais pas, puis il ne te connaît pas, il va te demander tout de suite d'en parler, il va te donner la main, « Merci d'être venu au meeting, mais tu es rendu où dans ton programme? » Puis là, tu es obligé de dire, bien, je suis rendu à ma deuxième étape, je suis rendu à la huitième étape, je suis rendu, tu sais, tu n'as pas le choix. Parce qu'ici, on ne le demande pas, ça. Fait que le gars, il s'assoit, il écoute, puis il fait le meeting du côté social des associations anonymes, les meetings. Fait qu'on appelle ça faire du meeting de chaise. Tu ne consommes pas, mais tu ne changes pas ton comportement pour autant. Fait que tu es toujours le consommateur avec ton problème de comportement, mais tu ne consommes pas. C'est pour ça que tu peux être un alcoolique sans consommer.
Je comprends. Est-ce que tu vas... Combien de temps tu vas continuer à faire ça? Est-ce que, parce que quand même, là, on parlera de ta vie d'aujourd'hui, de maintenant, de ce que tu fais cet été.
Ça fait partie de ma vie aujourd'hui.
Ça fait partie de ta vie et tu vas continuer à faire ça.
Oui, parce que les gens ont compris que le vol 236 m'a donné une certaine crédibilité face à ces gens-là qui ont des problèmes de consommation. Parce que j'ai même moi, j'ai le problème, puis je l'ai contrôlé. Puis je suis toujours en cheminement 24 heures à la fois. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Mais il reste que quand je leur parle en avant, puis je leur explique ma maladie, je leur explique comment moi, je vois ça, qu'est-ce que je pense que je fais aujourd'hui que j'ai réussi à m'en sortir. Mais il y a une certaine crédibilité parce que, justement, on parlait en début d'émission que j'ai sauvé 306 personnes. Ouais. Bien, ça me donne la crédibilité. Mais ça, la crédibilité, il faut que tu dises la vérité. Mm-hmm. Tu peux pas mentir. Tu vois, je suis obligé d'être vrai devant les gens, puis j'ai toujours été une personne vraie. Fait que je leur dis, il y a du monde qui sort des fois. Ils sont pas capables d'écouter ce que j'ai à dire parce que c'est trop vrai ce que je dis. Tu vois? Parce que, puis ils se disent, le commandant était capable d'arrêter. Ben, moi aussi, je serais capable d'arrêter.
C'est ça,
tu vois?
Pourquoi pas moi?
Puis ils s'aperçoivent que je suis comme eux. Puis je leur dis, vous êtes 200, là. On est 200 malades mentaux ici. On est tous des alcooliques. Puis il n'y a pas un qui peut se lever et dire, hey, puis ce que tu dis, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que je parle de la maladie. Tu vois?
Ouais. C'est... Alors donc, tu te sens une responsabilité, au fond.
Non, pas responsable. C'est pas... Parce... Non, mais, non, sens... non, pas mais le truc là-dedans, c'est quand tu parles à des alcooliques toxicomanes, ce que tu essaies de livrer le message qui a été mis par les deux membres fondateurs, ça te fait du bien à toi autant de le dire qu'eux de l'écouter. Puis je leur dis des fois, à la fin du partage, je leur dis, je suis peut-être égoïste, là, mais moi, je ne sais pas si vous avez aimé ce que je vous ai conté, mais moi, ça m'a fait grandement du bien de vous le dire. Ouais.
C'est ça. Ouais,
je veux juste rappeler notre balado, les 12 épisodes. On parle de dépendance, on parle
d'alcoolisme. Une étape par an. Une étape. 12 étapes, on parle d'une étape par balado.
C'est ça. Donc, chaque étape, on a 12 étapes. Mais je veux mentionner que ce n'est pas nécessairement juste des problèmes d'alcoolisme.
Non.
On parle de dépendance en général. Ah ouais. Quelqu'un qui est dépendant, je dis n'importe quoi, à la nourriture, à la religion, au jeu, peut écouter ce balado-là.
Même ma fille est venue faire un balado avec nous, puis... Elle a décidé d'arrêter de consommer d'elle-même. Elle nous parlait son cheminement, que même elle a eu soif malgré qu'elle ne pense pas qu'elle a le problème, mais elle s'est dit m'arrêter un an. Pour le septième mois, elle a eu soif. Ben, je comprends pas que j'ai eu soif quand j'ai pas le problème. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tu as enlevé ce petit côté-là de ta vie qui est tellement omniprésent, là, la consommation aujourd'hui.
L'alcool, on boit pour toutes sortes de raisons. On boit parce qu'on a un événement, on a un cocktail, on a un brunch,
on a un pique-nique. Non, puis tu te ramasses avec un verre en main, puis tu sais même pas, tu l'as même pas commandé, puis tu vois, c'est...
Non, je sais bien. Mais enfin, c'est vraiment très intéressant d'avoir partagé cette heure avec toi, Robert, et puis bien sûr aussi d'avoir eu ce lien aussi avec notre clown humanitaire, Guillaume Vermette. En tout cas, chose certaine, il y a ces balados qui s'en viennent, donc...
À partir du 7 septembre, à aller sur le site Internet de Canal M... Puis vous allez voir, c'est annoncé le titre, Robert, du balado, qui est...
Enquête de la sobriété avec Robert Piché.
Et voilà. Ouais. Et puis, tout comme notre clown, je pense que l'idée, c'est que quand on donne comme ça aux autres, ça nous apporte autant.
C'est ça.
C'est ce que tu viens de dire.
C'est ça, ouais. Ouais.
Alors, c'est vraiment... C'est un message important. Donc, les gens... Je pense que ça peut être... D'ailleurs, pour des gens qui ont le même problème que le tien, ben, peut-être qu'éventuellement, ça peut être un exemple, justement, d'aller donner aux autres. Mm. Je pense que c'est
juste
ça...
Juste faire du bénévolat.
C'est ça qui peut, peut surtout les sauver, finalement, parce qu'ils vont recevoir aussi plein d'énergie, plein de belles choses. C'est tout le temps qu'on a, Robert. Mm. On a... À
ça peine passe toujours trop vite.
Merci à toi. Merci d'être venu en studio. Et puis, merci Nathalie. Merci tout le monde.
Merci de l'invitation.
Et puis, écoutez, on se retrouve. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine, une autre semaine devant nous avec de bons invités et puis plein de sujets intéressants.
Ouais.
Merci et puis bonne fin de semaine
merci
à tous.
Merci Robert.
Bonjour,
bon après-midi.